Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Cette émission, écoutez aujourd'hui, comme toutes les précédentes, a pour but de transmettre l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et si nous sommes régulièrement assaillis de mauvaises nouvelles, il y a aussi, heureusement, de bonnes nouvelles. On parle même d'heureux événements, formule souvent utilisée pour annoncer une naissance. Toutefois, l'Évangile est qualifié de « la bonne nouvelle », car il impacte non seulement le temps présent, mais aussi l'éternité. C'est ce message que nous trouvons sous la plume ou dans la bouche des apôtres de Jésus-Christ. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis, avant tout, le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Le message de l'Évangile, c'est avant tout, en premier lieu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité, conformément à ce qui avait été annoncé par les Écritures. La mort du Christ sur la croix semblait marquer un échec, une défaite, car certains espoirs étaient déçus, de l'aveu même de deux disciples cheminant, l'air sombre en direction d'Emmaüs. Je les cite, Luc chapitre 24, verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. » En réalité, c'est tout le contraire. La mort de Jésus sur la croix est une éclatante victoire, car là, sur le mont Golgotha, s'accomplissait ce que le prophète Ésaïe avait annoncé au chapitre 53, je cite, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Bible du Semeur. Éclatante victoire, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Colossiens. Je lis Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Après un cours d'histoire sur l'époque napoléonienne, j'ai compris pourquoi nous avions à Paris une gare du nom d'Austerlitz et que les Anglais, eux, avaient nommé une des gares à Londres Waterloo. Ce jour, j'aimerais, tel l'éclat du diamant, souligner trois facettes, trois éclats de cette éclatante victoire. Nous découvrons le premier en lisant Genèse chapitre 22 verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Après bien des événements à travers lesquels la foi d'Abraham a déjà été éprouvée, notamment dans la naissance d'Isaac, appelé le fils de la promesse. Il est précisé dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 19, je cite, « Sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » On comprend pourquoi, dans cette nouvelle mise à l'épreuve, Dieu était précis quant à sa demande. Je cite, « Prends ton fils, entre parenthèses, il en a deux, ton unique, et nouvelle précision, celui que tu aimes. » Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu donne le nom, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se fait-il tirer l'oreille? Dieu veut-il appuyer où cela fait mal? Sans tergiverser, Abraham s'est mis en route et lorsqu'il a aperçu le lieu indiqué, il a dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour l'holocauste, le charge sur son fils Isaac et porte lui-même le feu et le couteau. Et quand Isaac questionne son père Abraham en disant « Mon père, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répond « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » La foi rend capable de penser comme Dieu voit les choses. Je lis Hébreux chapitre 11, verset 19. Abraham pensait que Dieu était capable même de ressusciter Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ainsi, Abraham a passé avec succès cette épreuve de la foi. Arrêté à l'ultime instant, le couteau en main, Abraham a pris le bélier et l'a offert à la place de son fils. Il y a eu substitution. Cela a valeur de symbole, car lors de la crucifixion, Dieu est allé jusqu'au bout et n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Je cite à nouveau le prophète Ésaïe. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Jésus, tel un paratonnerre, a subi la condamnation que méritaient nos péchés. Avec l'évangéliste Luc, portons nos regards vers le calvaire et écoutons. Dans un premier temps, les deux brigands mis à mort de part et d'autre de Jésus l'insultent. Puis, l'un des deux, prenant conscience de la situation, change complètement de langage. Il a entendu Jésus prier pour ses bourreaux et il mesure, avec foi, la portée de l'inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. S'adressant à son complice, il dit « Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. » Mais lui n'a rien fait de mal. Puis s'adressant à Jésus, il ajoute « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Quant au dénommé Barabbas, emprisonné avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute, où était-il? Car s'il est maintenant libre, c'est uniquement parce que la foule a demandé qu'on le relâche et que l'on condamne plutôt Jésus. S'est-il mêlé à la foule rassemblée pour assister à ce spectacle? Pour lui, une chose est certaine. Sur la croix, Jésus a pris sa place. Je connais un homme qui a été touché et convaincu de péché en lisant ce qui concerne Barabbas dans l'évangile de Jean. Je lis Jean chapitre 18, verset 38 et suivant. Pour ma part, dit Pilate, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau tous crièrent, « Non pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Or, Barabbas était un brigand. Cet homme que je connais a témoigné avoir pris conscience qu'il ne valait guère mieux que Barabbas, qu'il était aussi, lui, comme un brigand, un pécheur. Et au moment même où il a compris cela, il a pleuré, prié, demandé pardon pour sa condition de pécheur. « Oui, Jésus, tu as pris aussi ma place. » Une grande paix a alors envahi son cœur, avec la certitude que ses péchés étaient pardonnés. Oui, à la croix, il y a eu substitution. Christ a pris notre place. Il est mort pour nos péchés. Avant d'évoquer la deuxième facette, le deuxième éclat de cette œuvre accomplie par Jésus à la croix, écoutons une page musicale.
Élevé enfant de lumière, précieux aux yeux de Dieu, enfant de lumière, porté par son amour, tend les mains vers lui tous les jours. Dans le mystère de ta vie, là où tu es, où le temps n'existe pas, au fond de toi, dans ton jardin secret, enfant de lumière, précieux aux yeux de Dieu, enfant. Par son amour.
Nous poursuivons notre message de la croix de Christ, de l'Évangile, qui est, rappelons-le, avant tout, en premier lieu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité conformément à ce qui avait été annoncé par les Écritures. Et tel l'éclat du diamant, la crucifixion de Jésus et le glorieux événement qu'il a suivi 3 jours après est une éclatante victoire dont nous évoquons 3 facettes, 3 éclats. D'abord, nous avons parlé de substitution, à la place de. La deuxième facette ou éclat est la transformation. Je lis Exode chapitre 15, 22 à 25, Bible français courant. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara qui signifie « amertume ». La foule se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur, qui lui montra un morceau de bois. Moïse jeta dans l'eau le bois, et l'eau devint buvable. L'eau qui était amère a été changée, transformée. D'imbuvable, elle est devenue potable. Alléluia! Ne dit-on pas de certains qu'ils sont imbuvables? Cela pour évoquer un comportement inconvenant. Mais La vérité, c'est que tout comportement humain est issu de la nature humaine, assujetti à la loi du péché. Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul souligne le problème et montre la solution. Je cite « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » À Mara, le peuple assoiffé est devant une impasse. Comme toujours, Dieu a la solution. Et en réponse à la prière de Moïse, il indique un morceau de bois à mettre dans l'eau. Comment ne pas penser au bois sur lequel Jésus a été pendu ? Je cite Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. La malédiction devient bénédiction, de sorte que nous pouvons devenir participants de la nature divine. Dans ma jeunesse, nous chantions un cantique qui illustre ce changement. Ce cantique disait, je cite, « Autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, devant toi, mon père, à genoux, je demande pardon. » Et un autre couplet disait « Maintenant, enfant de lumière. » On raconte qu'un garçonnet vivant dans un château a demandé un goret pour animal de compagnie. Refus des parents. Insistance de l'enfant. Explication du refus. Le goret salira les tapis, les tentures et tout le reste. Engagement du garçonnet. Je le laverai et il sera toujours propre. Sur ce, le goret est entré au château. Mais voilà, dès qu'il en a la possibilité, le goret file à l'extérieur et va se vautrer dans la boue. Et le scénario de se répéter à chaque occasion. Qu'aurait-il fallu faire pour que ce goret reste propre ? Réponse, le transformer en chat, car la nature du goret le porte vers la boue, tandis que le chat est porté vers la propreté. Comme Moïse a mis le morceau de bois dans l'eau et qu'elle est devenue buvable, l'apôtre Paul nous dit que quand on met Christ dans sa vie, une transformation a lieu. Je le cite dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. À Jéricho, Jésus rencontre le chef des collecteurs d'impôts, nommé Zachée, et entre dans sa maison. Mais Zachée, collabo des robins, méprisé par les religieux bien-pensants, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Transformation. La troisième facette ou éclat est la décoration. Non pas une médaille, telle la Légion d'honneur ou autre distinction, mais une parure, un embellissement. Dans le jardin d'Éden, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Puis le serpent est venu, les a induits en tentation, et la désobéissance a produit de lourdes conséquences. Tout d'abord, ils se sont vus, tous deux, nus, tels qu'ils étaient. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient ainsi nus. Alors, pour cacher leur nudité, ils ont attaché ensemble des feuilles de figuier, et ils en ont fait chacun une sorte de pagne. Piètre couverture, car les feuilles de figuier, comme les roses, ne durent que l'espace d'un matin. Le Seigneur les a secourus. Je lis Genèse chapitre 3, verset 22. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Certainement bien mieux parés que par un couturier célèbre de notre temps. avec ses vêtements de peau, il y a déjà la notion de sacrifice. Au chef religieux qui le critiquait, Jésus a répondu par plusieurs paraboles, dont celle du fils prodigue. Le père a attendu patiemment son retour et l'a accueilli en le couvrant de baisers. Je lis la fin du récit, Luc chapitre 15, versets 21 et suivants. Le père, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Puis, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Ses vieux habits, qui étaient imprégnés de l'odeur des pourceaux dont il avait la garde, sont remplacés par ce qu'il y a de plus beau, décoration. Ce fils prodigue, n'est-il pas le reflet de ce que nous sommes? Voici ce que confesse le prophète Ésaïe, s'identifiant avec le peuple. Je cite chapitre 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Et lorsque nous faisons appel au Seigneur, voici ce que le même Ésaïe déclare. Je cite chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Les vêtements du salut, le manteau de la justice, attestent qu'il nous a pardonné, que nos péchés ne sont plus. La mort de Jésus sur la croix a été une nécessité. Lui-même l'a souligné, je cite Jean chapitre 3, verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut. Il n'y avait pas d'autre voie pour le salut des pécheurs. Alors Dieu s'est pourvu lui-même. Bien-aimé, c'est pour toi que Christ est mort. Et il est vivant aujourd'hui. Il se tient près de toi. Ne veux-tu pas lui demander pardon comme le brigand sur la croix, comme le fils prodigue? Une simple prière, avec des mots bien à toi. Le Seigneur comprend tous les langages des hommes, y compris celui des larmes de repentance. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. »